Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau rendez-vous, une heure à partager ensemble avec au programme de grands sujets relatifs à l'environnement et des expériences aussi de terrain et puis des thèmes qui nous touchent tous au quotidien, de vrais enjeux de société pour aujourd'hui et pour demain. Et aujourd'hui, à l'occasion des rendez-vous de l'histoire qui se déroule à Blois, avec pour thème cette année « Partir », nous avons choisi de croiser les regards sur ceux que l'on appelle les migrants de l'environnement, de questionner la notion de réfugié climatique et de comprendre la place qu'occupent ces migrants spécifiques. Les chiffres sont terribles, un habitant de la planète sur sept est un migrant. Et parmi les causes de ces migrations qui suscitent aujourd'hui, il faut bien l'avouer, appréhension et réflexion, et génèrent de vives réactions, la dégradation de l'environnement en est une que l'on ne peut ignorer. On estime à 26 millions le nombre de migrants environnementaux. Avec nous pour parler de ce thème ô combien crucial, François Gemène, politiste, spécialiste des questions environnementales, chercheur en sciences politiques à l'Université de Liège, directeur exécutif du programme de recherche politique de la Terre à Sciences Po et donc co-auteur du livre « Atlas des migrations environnementales » paru aux presses de Sciences Po cette année. À ses côtés, Annelise Depoux, co-directrice du centre franco-allemand Virchow-Villermé, docteur en sciences de l'information et de la communication de l'université Paris-Sorbonne-Celsa, et elle est chercheure associée au GRIPIC. Le GRIPIC, c'est le groupe de recherche pluridisciplinaire sur les processus d'information et de communication de l'université Paris-Sorbonne-Celsa. Et à ma gauche, Guillaume Collange, journaliste, membre du collectif Argos, un collectif à qui l'on doit notamment le livre « Réfugiés climatiques », un livre édité en 2010 par Dominique Carré, éditeur. Et puis, en seconde partie d'émission, les échos de la Terre nous emmèneront au cœur d'une exposition mêlant photos, art, histoire et géopolitique. C'est celle d'Emeric Luisset, intitulée « Dernière guerre de l'eau »,« Last War Water », un travail photographique réalisé en Irak sur le site archéologique de Girsu. Et un travail, une exposition qui met l'accent sur le risque identifié d'une guerre de l'eau prochaine et que l'on peut donc découvrir à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 4 décembre. Emeric Luisset, dont le travail en cours porte aussi sur les réfugiés.
I think the relocation certainly is the best thing to do as far as.
Je pense que la meilleure chose à faire est de déplacer notre communauté. S'il est inévitable que nous perdions notre île, comme nous le disent les scientifiques, c'est le transfert organisé qui est la meilleure issue pour sauver le Shishmaref que nous avons connu. J'essaye de lire et de comprendre autant que je le peux pour ensuite pouvoir m'adresser à des organismes extérieurs, au gouvernement fédéral, à l'État d'Alaska, la commission Denali et toutes les organisations susceptibles de nous aider financièrement. Mais je doute finalement qu'il y ait beaucoup de soutien à attendre vu le coût énorme de ce déplacement de tous les habitants de Shishmaref. Si on demande aux contribuables de voter ou de se prononcer d'une manière ou d'une autre à ce sujet, je ne suis pas certain qu'ils décideront de dépenser leur argent juste pour financer le déménagement d'un petit groupe de gens basés à Shishmaref.
Voilà, vous venez d'entendre un extrait d'une émission diffusée sur France Culture dans Tout un monde, l'émission de Marianne Fraissé. C'était le 6 décembre 2009 et donc ce témoignage d'un habitant de Shishmaref en Alaska qui nous permet tout de suite de plonger au cœur des problématiques de ces migrants de l'environnement. Bonjour Annelise Depoux.
Bonjour.
Bonjour François Gemène.
Bonjour.
Guillaume Collange.
Bonjour.
Et Emeric Luisset.
Bonjour. Bonjour.
Une personne sur sept, je le disais au début de l'émission, est dans le monde un migrant, mais parmi elles, il y a les fameux migrants environnementaux que l'on estime à 26 millions. Alors les chiffres, on en discutera dans un instant. Peut-être, première chose, François Gemène, cette notion de migrants, migrants du climat, c'est peut-être un peu réducteur. Il faut mieux parler de migrants environnementaux, c'est ça ?
Il est évident que la notion de migrants environnementaux englobe évidemment des causes de migration et de déplacement beaucoup plus larges. Mais il est certain aussi que beaucoup de ces causes environnementales sont liées directement ou indirectement au dérèglement climatique et aux impacts du changement climatique. Mais derrière ce terme, en réalité, de migrants environnementaux, on va trouver des gens qui sont dans des situations très très différentes. Il y a des gens qui vont être déplacés par des catastrophes brutales, par un ouragan, peut-être par l'ouragan Matthew qui touche les côtes de Floride ces jours-ci et qui a fait autant de morts en Haïti. C'est un exemple récent de ce type de déplacement. Et à côté, il y a aussi des migrations plus progressives, des paysans par exemple qui sont poussés vers les villes à cause de la dégradation des terres. Et donc on a une très grande variété de types de causes, mais aussi de types de déplacements et de migrations. Et je dirais que peut-être le risque dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de croire que ces déplacements sont apolitiques ou ne sont pas liés à l'économie. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus une imbrication de plus en plus forte entre les facteurs politiques, économiques et environnementaux des migrations, ce qui rend évidemment le comptage de ces migrants difficile. On sait que chaque année, il y a 26 millions de personnes qui sont déplacées par les catastrophes naturelles, par les seules catastrophes naturelles, c'est-à-dire à peu près une personne à chaque seconde où nous parlons. Mais à ce chiffre, il faut ajouter tous ceux et toutes celles qui sont déplacés par des dégradations plus lentes de l'environnement, et puis tous ceux qui sont déplacés aussi par des conflits ou des crises économiques dans lesquelles l'environnement joue aujourd'hui un rôle de plus en plus important.
Donc en tout cas, une distinction difficile, hein, parce que c'est vrai que ces différents facteurs s'entremêlent dans ces dynamiques migratoires, donc on parlera plus largement aussi de ces migrations qui sont multifactorielles, faut avoir ça en tête. Alors cette notion de migrants du climat, Guillaume Collange, est-ce qu'on peut dire que le collectif Argos, auquel vous appartenez, on va pouvoir peut-être en parler plus précisément, en quoi ça consiste, hein, un regroupement de journalistes, de photographes qui parcourent le monde. En 2010, vous avez donc fait éditer ce livre, Réfugiés climatiques. On n'en parlait pas encore en France à l'époque.
Non, c'est un travail qu'on a commencé en 2004, on a travaillé dessus pendant plusieurs années. Et il y a une première édition en 2007, d'ailleurs, du livre. On avait, nous, trouvé ce terme de « climate refugees » dans la presse anglo-saxonne. On ne le trouvait pas du tout en France, et c'est vrai que ça nous a semblé pertinent d'axer ça là-dessus, de parler de ça, pour intéresser en fait l'opinion publique sur les conséquences humaines du réchauffement climatique.
Alors, petit rappel peut-être, François Gemène, sur les aléas, parce que quand on parle de migrants environnementaux, donc les aléas qui sont responsables de cette migration, quels sont-ils ? Montée des températures de l'air et des mers, modification du régime des précipitations, la fonte des glaces.
Généralement, on va distinguer trois grandes familles de dégradation de l'environnement qui vont chacune provoquer des types de déplacements différents et donc sans doute appeler des mécanismes de protection et de prise en charge politique différents. On a d'abord la hausse du niveau des mers. On s'attend à ce que la hausse du niveau des mers soit au moins d'un mètre d'ici la fin du siècle, peut-être plus. Et là, on va avoir des déplacements permanents et irréversibles. On a à côté la dégradation des sols, les changements de la pluviométrie qui vont affecter très durement l'agriculture, bien entendu. En Afrique, la moitié de la population dépend de l'agriculture pour sa subsistance et donc ça a un impact énorme, notamment sur des questions d'exode rural. Et puis enfin, troisième famille d'impact, il y a les catastrophes naturelles qui vont permettre à la fois des évacuations temporaires et donc parfois un retour des populations, mais pas toujours. Dans bien des cas, ça va aussi provoquer des déplacements permanents de populations. On l'a très bien vu avec l'ouragan Katrina il y a un peu plus de 10 ans. Un gros tiers de la population de la Nouvelle-Orléans n'était jamais revenu en ville.
Annelise Depoux.
Oui, et le changement climatique renforce et crée des conditions favorables en fait à l'émergence d'épidémies qui peuvent être aussi à l'origine de migrations parmi d'autres facteurs. Mais le changement climatique joue un rôle très certain, même si ce n'est pas le seul facteur, dans l'émergence d'épidémies infectieuses dues notamment à des bactéries, des parasites, mais aussi transmis par des vecteurs tels que les moustiques. On a entendu beaucoup parler de Zika, mais aussi la dengue, le chikungunya. Et ces épisodes épidémiques peuvent conduire dans le temps à des déplacements de population vers des zones potentiellement moins affectées.
Alors les zones les plus sensibles, on les a repérées dorénavant à l'échelle mondiale. François Gemène.
Oui, alors, il y a en gros trois grandes zones qui sont particulièrement sensibles. C'est d'abord l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, qui sera très touchée par des inondations et des catastrophes de type ouragan. C'est là qu'habite la majorité de la population mondiale. C'est généralement la zone du monde qui sera la plus touchée aussi par le changement climatique, à la fois parce qu'elle est plus exposée et parce qu'elle est plus peuplée. Il y a ensuite l'Afrique subsaharienne qui sera très touchée, notamment en raison des variations de la pluviométrie qui affecteront directement l'agriculture. Et puis il y a aussi, et on n'en a pas encore parlé, ce sont ces zones du monde un peu aux extrêmes. On a entendu un témoignage d'un habitant de Chichmaref en Alaska, et donc les zones polaires seront très touchées. Et puis aussi il y a les petites îles, bien entendu, les petits états insulaires qui sont directement, pour certains, menacés de submersion en raison de la hausse du niveau des mers. Et ça pose évidemment une question aussi tout à fait nouvelle en droit international. Ces États souverains qui seraient submergés par la hausse du niveau des mers, conserveraient-ils leur qualité d'État à l'avenir? Ça, c'est une des grandes questions qui vont se poser dans le futur.
Guillaume Collange, quand vous avez choisi vos terrains justement d'investigation, donc c'était avant 2010, puisque le livre date de 2010, comment est-ce que vous avez repéré ces zones-là? Le choix s'est fait de quelle façon?
On voulait avoir de toute façon des sujets sur différents continents et qui touchent les différentes problématiques du réchauffement climatique, à savoir l'augmentation du niveau des mers, l'érosion, la fonte des glaciers, l'augmentation de la désertification, des phénomènes climatiques. Donc voilà, on a été allé faire un reportage effectivement en Nouvelle-Orléans sur Katrina, c'était juste après Katrina, au Népal sur la fonte des glaciers, à Chichmaref sur l'érosion de cette île qui est une île en fait où l'érosion s'accélère puisque le sol est de moins en moins gelé. Et donc ils vont devoir bouger sur le continent, mais leur culture est quand même très différente, notamment à Chichmaref, l'alcool a été complètement interdit et ils vont revenir vers le continent. Et on sait que l'alcool a causé beaucoup de problèmes là-bas. Voilà, on a essayé en tout cas de pouvoir couvrir des différents terrains suffisamment différents et couvrir un peu tous les sujets.
Donc des zones dorénavant très médiatisées, on en prend la mesure avec justement Katrina, la fin d'un monde, extrait d'une émission diffusée sur France Culture, c'était le 28 août 2015.
As one of the residents of the city, my house flooded. I was one of the people who I did.
J'habite la Nouvelle-Orléans. J'ai donc quitté la ville la veille de Katrina. Je me suis réfugiée dans une autre ville, chez ma sœur.
There were about 24 of us.
On était 24 dans sa maison.
We were able to come back into the city.
15 jours après l'ouragan, j'ai pu revenir en ville avec un pass du gouverneur. Les maisons de ma mère et de ma grand-mère étaient entièrement détruites. Et le rez-de-chaussée de ma maison aussi. L'eau est restée 3 semaines dans la maison. Et le flot était violent, donc tous les meubles étaient déplacés.
L'eau était très violente, c'était très turbulent. Donc un bed.
Un lit se retrouvait dans la cuisine, par exemple. Vous ne pouviez rien retrouver. Tout était à jeter. Jeter les photos, les œuvres d'art, c'est difficile. Mais plus profondément, notre sens de la sécurité de la vie a été anéanti. Le sol s'est vraiment dérobé sous nos pieds. Beaucoup de choses très dures. Et l'une des plus dures, c'est de savoir que vous pouvez à nouveau tout perdre, à tout moment.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Annelise de Pou, je me tourne vers vous, parce qu'on a aujourd'hui dans les fonds des archives de l'INA tout ce potentiel, ces témoignages, c'est au fil des catastrophes, des aléas, comme on dit, environnementaux. Vous avez travaillé sur la communication, la médiatisation autour de ces réfugiés du climat.
Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on a entendu là, à l'instant, on le voit très bien, c'est que l'impact sur la santé mentale est très important. Il y a des traumatismes qui se créent, beaucoup de stress et une certaine violence traumatique. Mais ce dont on parle beaucoup dans les médias, disons que si on parle maintenant du traitement médiatique donc du sujet, il y a eu différents temps en fait dans la médiatisation et le sujet des migrations climatiques, il apparaît autour des années 1996, au moment, en fait, c'est consécutif à la deuxième conférence des parties sur le changement climatique, la COP 2, qui a été organisée à Genève. Et de 96 en fait à 2007, on est dans le temps de l'alerte médiatique, mais avec une certaine prudence scientifique. Puis à partir de de 2007 en fait jusqu'en 2012, le problème des migrations climatiques devient un sujet traité à part entière dans les médias. Et je dirais qu'à partir de 2012, la manière d'aborder la question évolue et on considère le sujet en termes d'adaptation et plus seulement comme une crise.
Et alors, François Gemène, il y a tout le travail des historiens quand même, que l'on découvre ou qu'on redécouvre aujourd'hui, parce que ces migrations humaines, elles ont toujours été liées, enfin pour beaucoup en tout cas, dans l'histoire à l'environnement. On en a retrouvé des traces. Vous nous en parlez et vous le racontez dans votre atlas des migrations environnementales. Dans l'histoire, on pense par exemple au tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Il y a eu aussi l'éruption du volcan indonésien Tambora, c'était en 1815. Et là, c'est d'ailleurs dans le supplément, le hors-série Partir, très belle article qui raconte précisément justement les conséquences et à l'échelle mondiale, finalement ces données de l'histoire, on les a, elles peuvent peut-être servir aujourd'hui.
Absolument. Il est absolument essentiel que nous ayons une perspective historique sur ces questions. Oui. Et souvent, quand on va parler des migrations environnementales, on va s'imaginer qu'il s'agit d'un risque lointain et futur qu'on pourrait éviter si on réduit suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut bien se rendre compte que c'est déjà une réalité présente aujourd'hui pour des millions de gens sur la planète et que surtout, l'environnement a toujours été un facteur historique essentiel de la manière dont les gens se répartissaient sur la planète. Et donc, on a cité quelques catastrophes historiques qui ont provoqué des déplacements de population importants, mais historiquement, l'environnement a toujours été un facteur absolument déterminant des migrations et des déplacements de population, que les gens aient été attirés par des conditions environnementales favorables. Après tout, c'est comme cela que l'Europe a été peuplée par les premiers hommes, ou que les gens se soient déplacés à la suite de conditions défavorables. Et donc, à travers l'histoire, l'environnement a toujours été un facteur majeur de migration et de déplacement de population. Et on est aujourd'hui face à un autre changement de l'environnement majeur qui vraisemblablement va amener une certaine forme de redistribution de la population sur la planète. Et donc, c'est essentiel d'avoir cette perspective historique pour que l'on mesure l'ampleur du changement qui est à venir.
Guillaume Collange, cette perspective historique nécessaire, est-ce que dans le travail de photographe et de journaliste que vous menez, vous sentez que sur ce thème justement des migrations environnementales, c'est essentiel? Est-ce que vous en servez ou est-ce que vous partez peut-être même dans une quête sur le terrain en essayant de faire remonter, ressurgir ce panorama du passé?
Oui, enfin, pour revenir sur les terrains, quand on parle de migration, alors sur certains pays, ça va être plus facile, puisqu'on a Tuvalu, où il y a relativement peu d'habitants, et ils vont pouvoir, enfin, il y a déjà des accords qui sont faits avec la Nouvelle-Zélande, mais bon, Tuvalu, c'est 11 000 habitants. Mmh. Pour les Maldives, par exemple, c'est 350 000 habitants, donc c'est beaucoup plus compliqué, et les Maldiviens ont toujours vécu sur ces terres-là, depuis des millénaires. Ça a été un carrefour entre l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde et puis l'Indonésie. C'est vrai que eux, de comprendre que son pays va disparaître, enfin, on peut se mettre à leur place, c'est complètement abstrait et c'est difficile à admettre.
Alors, François Gemène, ces histoires-là, elles sont encore mal documentées.
Elles sont encore assez mal documentées. J'avoue que c'est un peu ce qu'on essayait de faire dans l'Atlas aussi, d'essayer de documenter un peu ces événements historiques qui avaient déclenché des grands déplacements de population. Et on constate d'énormes similitudes, y compris entre les manières dont les évacuations étaient réalisées. Quand on regarde par exemple la manière dont l'évacuation de la ville de Lisbonne a été réalisée après le tremblement de terre suivi du tsunami, suivi de l'incendie de la ville, le 1er novembre 1755, on trouve énormément de similarités avec la manière dont la ville de la Nouvelle-Orléans a été évacuée en anticipation de l'ouragan Katrina. On trouve aussi des similitudes avec la catastrophe de Fukushima. On a une séquence d'événements assez semblables. On a un tremblement de terre, un tsunami, et puis d'un côté un grand incendie, et de l'autre un accident nucléaire. Et finalement, il y a tellement de choses que nous n'avons pas apprises, malgré le fait que ces catastrophes étaient documentées, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, y compris aujourd'hui dans la manière dont nous organisons l'évacuation et le retour des populations, en examinant les leçons de l'histoire. Et la catastrophe de Lisbonne tient évidemment un rôle assez particulier. Elle est considérée comme la première catastrophe moderne, c'est-à-dire celle qui va faire émerger la notion de vulnérabilité aux risques environnementaux et donc la notion de prévention possible contre les catastrophes.
Alors, c'est vrai qu'on se pose forcément cette question. On a compris que ces migrations, elles étaient multifactorielles. De quelle façon est-ce qu'on parvient à évaluer les migrations, alors peut-être globales déjà, et parmi ces migrations globales, ce facteur environnemental? On a donné des chiffres au début de l'émission en parlant de 26 millions de migrants environnementaux, 26 millions.
Je pense que c'est très difficile de séparer les migrations et les migrants en fonction de leurs facteurs de migration. Parce qu'en réalité, les facteurs se mêlent les uns aux autres. Regardons la situation actuellement avec les réfugiés syriens. Aujourd'hui, la priorité politique, celle qu'on entend à longueur de journée, c'est de séparer les bons réfugiés politiques qui seraient légitimes à venir en Europe et les mauvais migrants économiques qu'on pourrait renvoyer à l'expéditeur comme s'ils étaient de vulgaires marchandises. La réalité des migrations, c'est que ces migrations sont pour beaucoup multicausales et qu'il est très difficile, et je pense assez vain et questionnable d'un point de vue éthique, d'essayer de séparer les gens et de les placer dans différentes catégories en fonction de leurs motifs de migration. Et donc on parle bien sûr de migration environnementale pour souligner le rôle de l'environnement dans les déplacements de population. Mais à mon avis, plutôt que de créer une catégorie séparée, ce qu'il est vraiment important de faire, c'est de reconnaître le rôle croissant de l'environnement parmi les facteurs de migration et d'étudier ces interactions et les influences mutuelles entre les facteurs environnementaux, politiques et économiques, qui seront de toute façon de plus en plus liés à l'avenir au fur et à mesure que le changement climatique produira ses effets.
Mais on peut quand même dire que depuis les années 70, le volume de déplacements a doublé.
En tout cas, celui qui est lié à l'environnement est en constante augmentation, d'autant plus que c'est un motif qu'on avait oublié à travers l'histoire. Quand on a conçu le droit et les politiques des migrations, on les a organisées autour d'une dichotomie un peu simpliste. D'un côté, les migrations politiques qui ouvraient le droit à une protection internationale. De l'autre, les migrations économiques qui étaient laissées à l'appréciation des États. Et on a complètement oublié les facteurs environnementaux de migration dans la manière dont on a construit les politiques migratoires et le droit des migrations.
Il y a une variété de migrations, on n'en a pas encore parlé. Migration forcée ou volontaire, temporaire ou permanente, locale ou internationale, migration de confort aussi, vous en parlez très bien dans l'Atlas, c'est-à-dire ces migrations qui font que, ben voilà, peut-être qu'à l'âge de la retraite, plutôt que de rester dans une zone nord, on va aller chercher le soleil dans la zone sud, et elles font aussi partie de ces migrations environnementales. Donc une vraie variété de types de migration.
Une variété immense. Et effectivement, derrière ce label de migration environnementale, on a des situations très très différentes qui vont appeler aussi, je crois, des réponses politiques profondément différenciées.
D'où la difficulté de quantifier aussi. Alors, ces migrations, source de fragilité et de vulnérabilité, on en prend la mesure tout de suite avec cet autre extrait des archives de l'INA, Tchad, un reportage de Nathalie Fontrelle dans le village de Sourtanga. C'est au nord-ouest du lac Tchad. C'était pour France Inter le 14 octobre 2009.
Je suis la femme d'Ousmane. Il est parti à N'Djamena. Il est parti chercher du travail. Il vend des fruits et des légumes. Et il va nous aider.
Il a déjà envoyé de l'argent ?
Il envoie de l'argent et des fruits.
Vous avez combien d'enfants ?
J'ai 5 enfants.
Et la terre n'a pas suffisamment produit pour les nourrir tous.
J'ai beaucoup labouré. Regardez l'état de mes mains. Bah, les rendements sont trop faibles. Il n'a pas plu assez.
À 7 heures de route de là, nous avons retrouvé Ousmane, le mari, à N'Djamena, la capitale tchadienne.
Ici, je fais du petit commerce. Je vends de l'essence et des fruits.
Mais depuis combien de temps êtes-vous parti du village ?
2 ans.
2 ans sans rentrer chez vous ?
Quand il y a un décès dans le village, je rentre pour une quinzaine de jours, mais sinon je dois rester ici.
Mais vous vivez où ?
On loge à plusieurs, on est 4 à partager la chambre.
On a vu votre femme au village et elle m'a montré ses mains. Et ses mains, elle a mal aux mains parce qu'elle a beaucoup travaillé. Elle travaille beaucoup, votre femme.
Elle n'a pas le choix puisque je ne retourne pas au village. Il faut labourer. Les enfants me manquent, mais si je reste à leur côté, ils auront leur père avec eux, mais rien à manger.
Guillaume Collange, peut-être une réaction, même si le Tchad n'a pas forcément été votre terrain de professionnel, mais en même temps, vous avez été confronté aussi à ça.
Oui. Mais le lac Tchad, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre avec les conséquences du réchauffement climatique, c'est que ça empire des phénomènes qui existent déjà. Donc là, le lac Tchad, en fait, l'eau a diminué énormément et c'est devenu une toute petite portion, due en partie à l'action humaine, qui a coupé les arbres, donc il n'y a plus d'irrigation, mais aussi parce qu'il y a eu l'irrigation en amont, et donc il y a eu moins d'eau qui est arrivée sur le lac. Voilà, donc ça, c'est la population qui vit autour, du coup, n'a plus suffisamment de quoi vivre de la pêche, et s'oriente vers l'agriculture, sur une terre qui est pour l'instant relativement fertile, mais qui a un autre problème, c'est qu'il n'y a plus assez de pluie, puisqu'il y a le cycle de l'eau d'évaporation n'a plus lieu justement dans cette zone-là.
Et donc cette fragilité des populations rencontrées ?
Ça dépend des territoires en fait. C'est vrai que sur les Maldives, c'est vraiment très criant parce qu'on comprend que le sol des Maldives, donc les Maldives, le problème c'est l'érosion. Les îles sont protégées par une barrière de corail, qui est la barrière naturelle qui va protéger justement de l'érosion, du ressac des vagues. Mais cette barrière de corail est aussi mise à mal par le réchauffement climatique, puisqu'elle a blanchi notamment il y a une année où le blanchiment était très important et donc l'érosion a augmenté. Cette année, il y a eu encore un phénomène d'El Niño très important et le corail a aussi partiellement blanchi. Et donc voilà, on sent que ce sol, quand on va fouler le sol des îles Maldiviennes, c'est vraiment extrêmement friable. Ce n'est que l'accumulation de squelettes de corail, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et les Maldiviens ont compris leur fragilité, curieusement, suite à l'érosion, parce que le concept d'augmentation du niveau des mers, ça passait pas très bien. Enfin, ils disaient, mais ça va pas être une vague qui va venir nous submerger. Mais c'est suite au tsunami de 2004, pourtant rien à voir, c'est un phénomène de tectonique des plaques, un tremblement de terre. Mais pour le coup, ils se sont sentis vulnérables parce que l'eau est venue sur les îles. Voilà, ça a été important, il y a eu une centaine de morts. Et ils ont compris que finalement, ils étaient vraiment très très proches de l'eau, alors qu'ils ont la chance de ne pas avoir de phénomènes climatiques très forts, comme des ouragans, comme c'est le cas, ou des typhons, comme c'est le cas au Bangladesh. Donc pour l'instant, ils se sentaient un peu préservés.
Annelise Depoux, sur cette question de vulnérabilité, de fragilité, qui touche, on le sait, dans ce cadre-là, les plus défavorisés, hein, parce que partir, c'est aussi avoir les moyens de partir.
Oui, tout à fait. Et je crois que ce reportage montrait très bien la question de la situation et du rôle des femmes, notamment dans ces pays. D'abord sur la situation, lorsque survient une catastrophe climatique, les femmes sont plus vulnérables généralement, car en fait elles sont moins préparées à ce type d'événement de par l'accès en fait aux informations. Et ça a une incidence directe sur la mortalité. Par exemple, 70% des victimes du tsunami de 2004 étaient des femmes. 80% des victimes du cyclone Sidre qui a touché le Bangladesh en 2007 étaient aussi des femmes. Mais d'un autre côté, il faut aussi prendre en compte de manière très sérieuse le rôle des femmes dans la lutte pour réduire, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux impacts du dérèglement climatique. Elles innovent sur tous les continents en recourant à l'agriculture de conservation qui réduit les besoins en eau et en engrais, mais aussi en aménageant des réservoirs adaptés d'irrigation et d'eau potable, ou encore en créant des chaînes complètes de recyclage des déchets. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important, et des chercheurs, en fait, au moment de la COP21, se sont vraiment attelés à cet objectif. Il est très important de faire en sorte que les femmes soient plus associées aux décisions à l'échelon national, comme dans des négociations internationales.
François Gemène, sur ces questions-là.
Je pense que aussi un élément important à rappeler, c'est que la migration pour les populations les plus vulnérables reste quelque chose qui est parfois assez difficile à mettre en œuvre. Et que donc, souvent, ça sera une sorte de luxe, dirais-je, réservé aux populations les plus privilégiées, c'est-à-dire à celles qui ont suffisamment de ressources pour pouvoir partir et se mettre à l'abri. Les plus vulnérables vont souvent se déplacer sur de très courtes distances et vont donc déplacer une vulnérabilité vers une autre vulnérabilité, ou alors ne vont pas bouger du tout. Et on a un phénomène de population immobile, coincée,
piégée,
et qui sont donc extraordinairement vulnérables lorsqu'elles font face à une dégradation de leur environnement et a fortiori à une catastrophe naturelle.
On poursuit cette discussion dans un instant, mais auparavant, c'est le choix musical et c'est Annelise Depoux qui nous offre ce choix-là. Vous avez choisi
Mia, qui a en fait réalisé un morceau qui s'appelle Borders. En fait, c'est une chanteuse britannique d'origine sri-lankaise et qui a réalisé en fait ce morceau pour son oncle, qui est l'un des premiers réfugiés tamouls de Grande-Bretagne dans les années 1960.
On écoute.
Freedom, I don't need 'em. Where'd you read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed and the key. Weed and the key them to life. Let's beat 'em. Weed 'em smartphones, don't beat 'em.
Et vous êtes bien sur France Culture, et c'est bien Mia Borders que nous écoutons, le choix musical d'Annelise Depoux, l'une de nos invitées dans cette émission intitulée « Migrants de l'environnement » sur France Culture, enregistrée en public depuis l'auditorium de la bibliothèque Abbé Grégoire de Blois à l'occasion des rendez-vous de l'histoire, dont le thème, je le rappelle, est cette année « Partir ». Et nous sommes en compagnie du politiste François Gemène, spécialiste des questions environnementales et co-auteur du livre « Atlas des migrations environnementales », un livre tout juste paru aux presses de Sciences Po, Annelise Depoux, donc co-directrice du centre franco-allemand Virchow-Villermé et docteur en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Sorbonne-Celsa, et puis Guillaume Collange, journaliste, membre du collectif Argos, à qui l'on doit notamment le livre « Réfugiés climatiques », un livre édité en 2010 aux éditions Dominique Carré. Puis je vous rappelle que dans 10-12 minutes dorénavant, les Échos de la Terre vous feront découvrir le travail d'Émeric Luisset et son exposition en partenariat avec France Culture, Last Water War, à découvrir à l'Institut du Monde Arabe. Alors, nous en étions avant Mia sur le thème de la fragilité de ces migrants qui sont aussi piégés, souvent dans des conditions précaires. Hein, et on a tous en tête ces images avec les abris temporaires vieillissants, les bidonvilles, les camps, etc. Et cette question très importante, c'est l'enjeu politique. On va y revenir dans un instant avec vous, François Gemène, parce que dans votre livre, vous parlez d'un hiatus hein, entre la réalité des migrations environnementales et les constructions politiques. Mais auparavant, écoutons juste deux paroles sur cette question de la responsabilité des dirigeants. Tout d'abord, Jacques Chirac, à Johannesburg. C'était le 2 septembre 2002, lors du sommet de la Terre, et suivi des propos de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. Et là, c'était plus récent, 7 décembre 2015, lors de la COP21.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
Allez-y, vivez chez vous. 7 milliards de personnes veulent savoir que vous, les dirigeants du monde, avez à cœur leur intérêt et ceux de leurs enfants.
François Gemène, une réaction tout de suite. Donc 2002-2015, 13 années passées avec le sentiment d'avoir ce discours politique qui s'installe mais qui n'est pas forcément très efficace sur le terrain.
Non, c'est 13 années perdues malheureusement. Enfin, perdu, c'est peut-être un terme un peu fort, mais il est certain que c'est une question qui a mis du temps à apparaître à l'agenda et que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on commence à déployer des réponses politiques. La Suisse et la Norvège ont mis en place à partir de 2012 un processus intergouvernemental qui s'appelle l'initiative Nansen, qui a débouché sur un agenda de protection, donc un catalogue de bonnes pratiques à respecter et qui se concrétise cette année par la création d'une nouvelle organisation, la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes. La COP21 à Paris l'année dernière a également décidé de la création d'un groupe de travail qui doit informer les négociations climatiques sur cette question. Et puis cette semaine, Antonio Guterres, l'ancien haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a été désigné nouveau secrétaire général de l'ONU. C'est quelqu'un qui avait beaucoup milité pour la prise en compte de ces migrations environnementales quand il était au commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Et donc on peut imaginer qu'il en fera de même au secrétariat général de l'ONU. Et donc on peut espérer de nouvelles avancées. Mais cela prend énormément de temps, beaucoup trop de temps par rapport à la réalité aujourd'hui. Et parfois, ça part dans de mauvaises directions. Pour les migrations environnementales, comme pour les migrations en général d'ailleurs, il y a un décalage, un fossé béant entre la réalité de ces migrations et la manière dont elles sont perçues par l'opinion et par les gouvernements. Et malheureusement, les politiques sont bien plus largement fondées sur les perceptions que sur les réalités.
Guillaume Collange, sur ce thème peut-être, avec votre vécu toujours du terrain, la responsabilité aussi des politiques, hein, parce que on peut aussi évoquer cette responsabilité de l'organisation géographique de l'économie, hein, une responsabilité des gouvernements. Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans des centres urbains, mais c'est vrai que aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent ont quand même aussi la main pour trouver des solutions ou éviter des conséquences trop dramatiques.
Oui. C'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. Maintenant, je trouve que ça avance quand même malgré tout. Il y a eu un déclic. Heureusement, Paris a abouti sur quelque chose. Donc moi, je reste quand même plein d'espoir là-dessus. On a pris beaucoup de retard. Néanmoins, voilà, en tout cas, l'Inde vient de signer. Enfin, nous, on a travaillé après sur un autre projet qui s'appelle Empreinte. C'est des initiatives écologiques à travers le monde sur des éléments de solution justement au réchauffement climatique. Et très honnêtement, avant la conférence de Paris, tout le monde était très pessimiste. Donc c'est plutôt une grosse avancée que ça aboutit sur quelque chose, contrairement à l'échec de Copenhague. Après, effectivement, ça, il n'y a pas que les États, il y a aussi toutes les initiatives locales, en fait. Il y a aussi les villes, il y a aussi les régions, il y a les individus, tout simplement. Mmh. Et ça, je pense que le message passe de plus en plus, quoi.
Annelise Depoux.
Oui, je crois que dans l'opinion publique, en fait, ce dont on parle le plus sont les migrations subies. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi mettre l'accent sur la possibilité de permettre aux populations les plus vulnérables d'avoir accès à la migration. Parce que avoir accès à la migration, c'est aussi une solution potentielle pour améliorer la santé aussi de ces personnes qui sont dans des situations dramatiques aussi dans leur pays.
Et déjà avoir accès à l'information pour certaines, et puis à la, comme vous dites, à la migration, mais forcément on pense au coût, François Jemaine. J'imagine que les différents dirigeants, selon les zones géographiques, se disent mais combien ça va nous coûter de réagir de telle façon. Alors on voit des choses qui ont été réalisées quand même, hein. On pense aux Pays-Bas qui a érigé des digues, levé des barrières, etc. Bon, il y a des réactions. On commence aussi à voir, dites-moi si je me trompe, un peu plus de déplacements, enfin définitif mais organisé peut-être, et ou à l'inverse des retours organisés comme à Fukushima. On a obligé la population à revenir sur le terrain. Bonne ou mauvaise solution, je vous laisse répondre.
Il y a beaucoup de choses dans la question. Je dirais que c'est tout l'enjeu de l'adaptation et du financement de l'adaptation. Aujourd'hui, la question de l'adaptation est devenue un élément central des négociations sur le changement climatique, et donc la question qui va se poser, c'est: qu'est-ce qu'on fait des politiques migratoires, des questions de migration dans ces politiques d'adaptation? Depuis Cancun en 2010, on a reconnu que les politiques migratoires pouvaient faire partie des politiques d'adaptation et que donc la migration en soi pouvait être une stratégie d'adaptation. Et que donc les gens pouvaient migrer non pas parce qu'ils avaient échoué à s'adapter au changement de leur environnement, mais qu'ils pouvaient migrer au contraire pour s'adapter au changement de leur environnement. Le problème, c'est que certains gouvernements aujourd'hui organisent des déplacements assez brutaux de populations pour les mettre à l'abri de futurs impacts du changement climatique. Et donc on assiste de plus en plus à des phénomènes où des gouvernements vont déplacer une population d'une zone vers une autre, ce qui va souvent se faire au mépris de leurs droits, de leur information et de leur consultation.
Et ça, on le voit où, là, par exemple?
Alors, on le voit au Vietnam, avec un programme qui s'appelle Living with Floods, Vivre avec les inondations. Ça se fait en Chine, lié à la désertification. Ça se fait au Mozambique. Et ça, on a tenté de le faire en France aussi, il faut s'en souvenir. Après la tempête Xynthia, vous vous souviendrez que le gouvernement avait désigné des zones noires et donc avait proposé de déplacer les populations qui habitaient dans ces zones noires. On a vu les résistances auxquelles s'est heurté ce plan. Et donc, imaginez l'ampleur du défi dans les pays en développement.
Donc, on en est là, en tout cas, en matière de solutions, c'est ça?
Alors, ça fait partie des solutions, la migration comme adaptation. Et puis, bien entendu, il y a aussi la nécessité de permettre aux gens qui ne souhaitent pas se déplacer de pouvoir rester dans leur habitat d'origine, notamment via des adaptations à l'agriculture ou des solutions d'ingénierie comme les digues. Je crois que l'enjeu fondamental, c'est de faire en sorte que la migration soit un choix et que personne ne soit forcé de se déplacer ni ne soit forcé de rester là où il est ou là où elle est. Et donc, tout l'enjeu de l'adaptation, je crois, c'est de permettre aux gens de choisir s'ils souhaitent partir ou s'ils souhaitent rester en fonction des circonstances.
Mais alors on imagine que pour en arriver là, François Gemène, il faut aussi travailler sur le plan des droits de l'homme et de la justice. Est-ce qu'on peut dire que c'est en cours? J'ai cru comprendre que Jean Jouzel notamment participait à ces réflexions-là pour faire en sorte qu'il y ait un nouveau cadre juridique concernant ces migrations.
C'est en cours, c'est une réflexion qui est de plus en plus importante, qui passe évidemment par l'adaptation de certains cadres légaux internationaux, mais qui passera aussi beaucoup par les politiques nationales et par l'appropriation par les différents gouvernements de cet enjeu pour travailler au niveau des politiques nationales et pour reconnaître les droits, notamment le droit à l'information, le droit à la compensation. On pense toujours aux droits les plus fondamentaux, le droit au logement, le droit à la vie, mais il y a toute une série de droits civils et politiques qui souvent sont menacés dans des cas d'évacuation ou dans des cas de déplacement de population.
Guillaume Collange, en entendant les propos de François Gemène, on se dit, oui, c'est vrai, formidable, la solution est là. Bon, pour l'instant, c'est sur le papier, ce sont des bonnes intentions. Difficile à mettre en œuvre, on peut l'imaginer, sur le terrain, dans certains pays.
Le terme réfugié climatique, actuellement, ça existe d'un point de vue médiatique, mais sinon, en droit, ça n'existe pas,
je pense pas. Hein,
c'est... Mais pour revenir sur un terrain où je suis allé, sur les Maldives, c'est vrai qu'il y a eu un programme de regroupement de population qui avait déjà été pensé avant, qui était forcé, justement, qui a échoué, parce que les gens ne voyaient pas l'utilité de ça. Mais après la prise de conscience sur leur fragilité, le programme a été relancé, et ils vont regrouper, effectivement, les gens sur les habitants des Maldives, sur des îles plus grosses, plus importantes. Bon, il y a 1200 îles aux Maldives, il y en a à peu près 200 habitées. Ils vont essayer de les regrouper pour pouvoir s'adapter, pouvoir monter des murs en béton si l'érosion continue, comme ça a été le cas à Malé, où il y a eu toute une digue qui a été construite par les Japonais, qui maîtrisent plutôt bien ces digues de protection contre les tsunamis, et qui protègent Malé actuellement de l'érosion. Le tsunami, d'ailleurs, n'est pas rentré du tout dans Malé. Donc voilà, il y a des programmes comme ça.
Vous parliez de prise de conscience. Alors justement, on arrive au terme de cette première partie de l'émission de Cause à Effet. Et avant de passer à la seconde partie, je vous propose de nous livrer dans un rituel qu'on a mis en place depuis la rentrée. Votre maxime, c'est-à-dire peut-être cette phrase que vous avez ou en tête et qui guide ou qui explique votre travail aux uns aux autres. Et personnellement, c'était en pensant à cette phrase de Saint-Exupéry, « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Alors je me tourne d'abord vers Anis Depou, votre phrase à vous.
Oui, alors je vais reprendre celle de Simone de Beauvoir qui me semble résonner encore aujourd'hui. Elle disait « Le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action ».
François Gemène, vous aviez réfléchi ?
Oui, alors c'est une phrase du chimiste danois Niels Bohr qui dit ceci: la prévision est difficile, surtout quand elle concerne le futur. Et je dirais que ça souligne bien, par rapport aux migrations environnementales, la difficulté qu'il y a d'anticiper ces migrations. On a souvent tendance à imaginer qu'ils vont dépendre des impacts du changement climatique, et donc on peut prévoir ce qui va arriver dans le futur. En réalité, les migrations futures vont dépendre très largement des décisions politiques que l'on va prendre aujourd'hui, et c'est cela, essentiellement, qui va déterminer la nature et l'ampleur des flux migratoires à venir.
Alors Guillaume Collange, on vous avait demandé une phrase, mais je crois que vous l'avez peut-être pas forcément en tête.
En tout cas, allez, la phrase de Saint-Exupéry a été la première phrase qu'on a utilisée, oui, nous pour le projet des réfugiés climatiques qui nous parlait évidemment, et c'est en tout cas là-dessus qu'on s'est c'est une des phrases qui a été fondatrice dans notre travail.
Syntex. Eh bien écoutez, restez avec nous parce que la suite du programme de Cause à Effet va vous intéresser avec ce travail d'Emeric Luisset. Mais je rappelle juste vos ouvrages: Atlas des migrations environnementales, François Gemène, les paru aux presses de Sciences Po, et puis Guillaume Collange avec le collectif Argos, Réfugiés climatiques, un livre paru aux éditions Dominique Carré. Et j'en profite aussi pour signaler le hors-série Partir, coédité par Le Monde et France Culture, des histoires de départ, des migrations, des fuites, des conquêtes aussi, voilà, très très riche, très beau, hors série. Mais tout de suite.
Nous sommes sur ce qui reste du pont Hasankeyf. Vous voyez, il ne reste que les piliers de cet immense pont entre lesquels passe le Tigre. Ce sont ces restes magnifiques que l'État turc prévoit de transporter dans un autre endroit. Mais il est impossible de prendre quoi que ce soit ici sans lui faire perdre son âme, sa beauté. Et il y a plus grave encore. Comme vous le voyez, Les piliers qui soutiennent le pont ont été fabriqués avec ces grosses pierres de taille. Mais à l'intérieur des piliers, il n'y a que de la terre et de petites pierres. Il n'est donc pas possible de bouger les constructions sans risquer de les détruire définitivement. Vous voyez cette ligne dans la falaise? C'est à environ 20 mètres au-dessus du sol. L'eau va monter jusque-là. Le problème, c'est qu'ici, la roche est très friable. C'est pour cela que les gens habitent dans des grottes depuis des siècles. Alors, petit à petit, l'eau du barrage va abîmer la pierre, grignoter la falaise, et tout s'effondrera. Pour l'archéologue que je suis, c'est vraiment frustrant, désespérant même, car à peine un tiers de la zone qui sera submergée a été fouillée. C'est un pan de notre histoire que nous allons perdre. Vous savez, Hasankeyf est la mémoire de la Mésopotamie.
Seconde partie, actualité, les échos de la Terre avec ce focus sur l'exposition photo qui se déroule en ce moment à l'Institut du Monde Arabe à Paris, Last Water War, Ruins of a Future, en partenariat avec France Culture, Dernière Guerre de l'eau, Ruines d'un Futur, c'est son nom, et celui qui en est l'auteur et l'artiste, photographe, c'est Aymeric Luisset, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors Aymeric Luisset, on vient d'entendre un document sonore qui date du 24 mars 2009, un reportage tourné en Turquie. Et tout de suite, vous avez eu les images en tête, visiblement. Donc sur ce barrage, une vallée qui attend d'être engloutie par les flots du Tigre, fleuve mythique de Mésopotamie, avec plus de 50 000 personnes à déplacer quand même.
Tout à fait. Alors, je suis pas spécialiste sur ce projet, mais effectivement, c'est un projet sur lequel je me suis un petit peu penché, puisque il a des conséquences très importantes, notamment pour les pays qui arrivent après. C'est-à-dire, donc, c'est le projet GAP, donc, qui est construit depuis les années 80, qui consiste à irriguer une bonne partie de l'Anatolie du Sud pour y construire notamment des plantations de coton. Alors le coton est une ressource particulièrement gourmande en eau. On a pu le voir au Kazakhstan avec la mer d'Aral qui a quasiment disparu. Et donc en fait c'est un des facteurs qui risque de déclencher un conflit lié à l'eau en Irak, puisque avec ces constructions de barrages en Turquie, le niveau du Tigre et l'Euphrate va baisser considérablement en boue. Et du coup le boue c'est le sud de l'Irak.
Alors pour vous resituer un petit peu pour les auditeurs, vous avez donc développé un art archive, on va en discuter, qui veut nous questionner sur la représentation des conflits. Vous avez couvert des terrains de guerre comme l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie. Et donc vous nous proposez cette série de photos du site archéologique de Girsu en Irak où l'eau est un enjeu majeur. Alors rappelez-nous vos intentions premières, parce qu'après on rentrera effectivement dans votre art, mais par rapport à ce lieu-là précis.
Je pense que déjà, il faut rentrer sur le sujet même qui est cette question des guerres de l'eau en Irak, puisque ça fait pas mal d'années que je travaille, ça fait 13 ans maintenant que je travaille au Moyen-Orient, et ça fait pas mal d'années que je travaille particulièrement en Irak, et l'eau est quelque chose qui revient fréquemment dans les discussions. Du coup, j'ai décidé de me pencher un peu plus sur le sujet, et en l'étudiant, je me suis aperçu que tous les facteurs étaient là pour qu'un conflit lié à l'eau éclate. C'est-à-dire, premièrement, on a des facteurs internes qui sont les très fortes divisions interethniques, interreligieuses, la présence de milices extrêmement puissantes que le gouvernement a parfois du mal à contrôler. Et ensuite, on a des facteurs d'ordre régionaux. Alors, comme on en parlait tout à l'heure, il y a toute la question de la Turquie avec le projet GAP, donc ce projet de barrage. Et puis, on a aussi l'État islamique qui a fait du contrôle des barrages un de ses objectifs stratégiques, donc que ça soit en Syrie et en Irak. Et puis enfin, on a un facteur global qui est le réchauffement climatique, puisque avec l'augmentation des températures, en fin de compte, ça va participer à la baisse du niveau du Tigre et l'Euphrate. Et en même temps, on va avoir une montée des eaux salées. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces eaux salées vont rentrer dans le delta du Tigre et l'Euphrate. Et on a commencé à le voir en 2015. Et rentrer également dans les nappes phréatiques. Ce qui fait que cette zone, qui est traditionnellement une zone extrêmement fertile, qui est cette zone sud de l'Irak, qui est là, qui est née l'histoire, tout simplement, qui est née l'écriture, l'irrigation, les premières civilisations, qui est une zone où il y a énormément d'élevage, d'agriculture, de pêche. C'est également la zone la plus peuplée d'Irak. On a environ 30 millions de personnes, une zone à majorité chiite. Et en fin de compte, si cette zone se désertifie progressivement, ces populations, en fait, vont être obligées de migrer en amont, Et en amont, qu'est-ce qu'on a ? Ben, on se retrouve en zone sunnite. Or, la cohabitation sunnite-chiite étant particulièrement complexe en Irak aujourd'hui, on risque de se retrouver dans des affrontements, et notamment via ces milices. Et les milices chiites étant très puissantes, on peut voir des scénarios comme un déplacement des populations locales pour prendre les ressources en eau, voire même, dans le pire des scénarios, une extermination des populations locales. Je me suis questionné sur comment donner à voir un conflit qui n'existe pas, qui peut-être n'existera jamais. Et je me suis tourné vers le passé, et je me suis aperçu que une des seules, quasiment la seule guerre de l'eau dans l'histoire de l'humanité, s'est déroulée en Mésopotamie, il y a 4500 ans, elle a opposé la cité-état de Lagash et la cité-état de Houma. Et donc, ces deux cités-états se sont battues pendant 300 ans pour le contrôle d'un canal d'irrigation dérivé du Tigre. Cette guerre s'est terminée en 2350 avant Jésus-Christ, avec une destruction partielle de la ville de Girsou, qui était la capitale religieuse de Lagash, et de la cité-état de Lagash. Et donc, j'ai décidé d'aller sur le site archéologique de cette ville qui a été créée en 6000 avant Jésus-Christ et qui a été pendant plusieurs millénaires une des villes les plus importantes du monde. Et donc lorsque je suis arrivé sur le site archéologique de cette ville, en fin de compte, il n'y a pratiquement plus rien. La seule construction en dur qui est encore visible, c'est la structure d'un pont, qui est le plus vieux pont qu'on connaisse de notre histoire.
Et c'est un site qui n'est pas forcément aujourd'hui protégé, hein, vu le contexte géopolitique, c'est ça ?
Assez peu. Après, c'est dans une zone sud, c'est dans le sud de l'Irak, donc on n'est pas dans les zones où l'État islamique intervient. Donc après, il peut y avoir des pillages, comme il y en a sur, malheureusement, la quasi-totalité des sites archéologiques en Irak. Mais c'est un site qui, a priori, est relativement épargné du fait qu'il ne soit pas sur une zone contrôlée par l'État islamique. J'ai décidé donc de travailler sur ce site archéologique, de faire une série d'images sur ce site pour donner à voir, en fin de compte, à travers les restes de ce site, qui est une zone extrêmement aride aujourd'hui, qui est une zone désertique, le côté éphémère, en fin de compte, de toute civilisation, le côté extrêmement fragile de tout ce qu'il y a autour de nous et qu'on pense éternel.
Et donc, vous avez pris des photos à partir de quels moyens techniques ? Des drones ou comment vous avez fait ?
Alors, j'ai fait plusieurs types d'images. J'ai fait des images en pied et des images également avec un drone, de manière à offrir différentes perspectives, à la fois une perspective très cartographique avec le drone et une perspective donc de l'œil humain en étant à pied.
On dit de vous que vous êtes un artiste historien, parfois on utilise d'autres mots, artiste archiviste, artiste analyste. De quelle façon est-ce que vous définiriez le travail que vous faites, ou de quelle façon est-ce que vous vous ressentez vous-même acteur de tout ça ?
Alors c'est vrai que ces mots d'artiste archiviste, artiste historien, je les laisse à Philippe Dagen qui les a écrits. Après, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment travailler sur des problématiques géopolitiques. Et en fin de compte, je fais tout un travail de recherche comme le ferait un chercheur. Donc d'abord théorique, ensuite un travail de terrain. Alors là, il se trouve que j'ai travaillé sur un site archéologique, donc c'était un peu différent, mais souvent je travaille beaucoup avec des groupes armés, principalement des groupes de guérilla, donc là on a un travail très anthropologique. Et ensuite, je produis une œuvre qui va être une retranscription plastique, artistique, de l'analyse que j'ai effectuée. Donc ça peut être sous forme de photographie, mais ça peut être aussi de la vidéo, ça peut être de l'installation. Voilà, c'est assez varié.
Et alors, vous êtes en ce moment en train de travailler sur le thème des réfugiés en allant à la rencontre de réfugiés en Europe, hein, je crois.
Tout à fait. Alors en fait, c'est vrai que le thème des réfugiés me touche particulièrement, puisque en allant sur des zones de conflit, principalement en Irak et en Syrie, je me suis fait beaucoup d'amis sur place. Et aujourd'hui, beaucoup de ces amis sont sur la route des réfugiés. Certains sont arrivés depuis quelques années déjà. Et du coup, j'ai décidé de retrouver ces amis qui aujourd'hui sont en Europe et de faire tout un travail avec eux et sortir un petit peu de cette image qu'on a traditionnellement des réfugiés, puisque ce qu'on voit essentiellement dans les médias, c'est soit des images d'ordre catastrophique, cataclysmique, qui sont reprises après par les populistes, ou des images basées essentiellement sur l'événement ou une forme de misérabilisme. Et ce que je voudrais, c'est sortir un peu de tout ça et photographier vraiment le quotidien, une série d'images très banales, avec ses amis, entre ceux qui viennent d'arriver et ceux qui sont là déjà depuis quelques années. Et ensuite, ces photos seront développées sur des cyanotypes. Donc, c'est un procédé du 19e siècle avec des photos qu'on voit qui sont essentiellement bleues. Et en fin de compte, ces cyanotypes ne seront pas fixés. Et lorsqu'ils seront exposés, ils seront présentés, donc voilà, on verra ces photos. Et avec la lumière du soleil, progressivement, ces cyanotypes disparaîtront pour laisser place à des monochromes bleus qui seront une forme de double métaphore. Une métaphore de la Méditerranée, où beaucoup de migrants malheureusement disparaissent. Et le bleu, c'est aussi la couleur de l'Europe. Et l'Europe, ça a toujours été cette terre de brassage. C'est ça qui fait la richesse de la culture européenne et de ces réfugiés qui font partie des futurs Européens.
Alors, un travail en gestation, vous pourrez nous le présenter à quel moment ?
La première exposition aura lieu à Tirana pour la Biennale européenne et méditerranéenne. Et ensuite, ça va être présenté à Reggio Emilio en Italie pour le festival de Reggio Emilio et à Braga au Portugal. Donc, pas encore en France, c'est pas encore programmé pour la France. Je vais déjà faire le projet avant qu'on programme quelque chose en France. Mais voilà.
Dernière question, plus personnelle, plus intime peut-être, Aymeric Lucet, qu'est-ce qui fonde votre engagement dans cette façon d'interpeller les consciences à travers un art qui mêle art, histoire, archive ?
Moi, ce qui m'a amené à travailler sur ces projets, c'est cette question de l'histoire aussi, puisque on est quand même dans un lieu où l'histoire ici est importante. Ça m'a passionné très jeune, puisque je me suis aperçu qu'en regardant lorsque j'allais chez ma grand-mère, que je regardais les livres d'histoire qu'elle avait gardés, qui dataient de sa scolarité dans les années 30, je me suis aperçu que le récit qui était fait des événements historiques était très différent du récit que moi j'apprenais dans les années 90. Et du coup, je me suis aperçu que l'histoire, ce n'était pas un récit. Que l'histoire, contrairement à ce que certains politiques veulent faire croire, c'est une multitude de récits. Et il n'y a pas forcément une vérité. Et c'est ça que j'ai voulu comprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me rends sur ces lieux où l'histoire se fait pour essayer de la comprendre de l'intérieur et de comprendre ces gens qui font l'histoire. Qu'est-ce qui les a amenés à devenir, par exemple, des combattants? Qu'est-ce qui les a amenés pour les révolutionnaires ukrainiens à faire cette révolution? Pourquoi ils sont là? Quelles sont leurs attentes, leurs craintes? Donc voilà un petit peu tout ça.
Merci Aymeric Lucet. Merci. Je rappelle l'exposition que l'on peut découvrir au musée de l'Institut du Monde Arabe à Paris, Last Water War, la dernière guerre, et c'est jusqu'au 4 décembre. Allez-y. Il y a aussi un livre-carte que l'on peut vous signaler, édité par André Frère et Paradoxe. Et les informations et les liens sont à retrouver sur le site internet de l'émission, comme d'habitude, franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger et nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet. Et la semaine prochaine, et en public, on le sent nombreux à Blois. Merci à vous d'être venus pour assister à cette émission. Et je vous signale que la semaine prochaine, en lien avec le Festival du Livre de Mouans-Sartoux, qui a lieu en ce moment même d'ailleurs, et qui fait la part belle à l'environnement et au thème de la transition, eh bien nous recevrons Marie-Monique Robin pour son dernier film « Qu'est-ce qu'on attend ?» L'histoire d'un village de l'Est de la France passé à la transition et devenu autonome énergétiquement et bioresponsable. Une aventure extrêmement riche et intéressante, et on en discutera avec elle et avec l'historien et chercheur Christophe Bonneuil, avec Mathieu Labonne aussi, directeur du mouvement Colibris, initié par Pierre Rabhi. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui me suit chaque semaine. Catherine Donnet, attachée d'émission, Anaïs Morales, documentaliste sonore, Alexandra Malka qui réalise l'émission. Je n'oublie pas Virginie Noël du service de la communication de France Culture, et puis toute l'équipe technique de Radio France, ici à Blois, notre chargé de production Roland Dandalex, et les techniciens Jean-Pierre Pernel, Christophe Boudin, Benjamin Thuot, et aussi encore deux personnes à citer très importantes, Caroline Chausset, documentation sonore de Radio France, Anne Gouzon, documentation de Radio France, et sachez que vous pouvez retrouver la revue de web environnement de Anne Gouzon sur le site de l'émission. Dans un instant, suite de vos programmes sur France Culture, rue des Écoles et Louise Touré.